Chapitre 6. Homo eroticus. Ai-je jamais été séducteur ? Non, je me suis trouvé sur les lieux juste au moment où la douce magie de la nature avait commencé son ouvrage. Je n'ai non plus abandonné aucune femme, car à chacune mon cœur est resté éternellement reconnaissant. Arthur Schnitzler, Casanova à Spa. Il fait le dilettante, et le plus souvent sans succès, dans tous les arts que Dieu a créés. Il écrit des vers raboteux et de soporifiques raisonnements philosophiques. Il gratte médiocrement du violon et converse en mettant les choses au mieux comme un encyclopédiste. Mais il est déjà beaucoup plus fort s'il s'agit de ces jeux inventés par le diable et qui sont le pharaon, les cartes, biribi, les dés, le domino, l'art de faire des dupes, l'alchimie et la diplomatie. Cependant, c'est uniquement au jeu d'amour que Casanova excelle et qu'il se montre maître et magicien. Ici, par une chimie créatrice, ces 100 talents gaspillés et fragmentaires se combinent dans le pur élément du parfait érotique. Ici et seulement ici, ce dilettante équivoque a incontestablement du génie. Son corps déjà semble fait pour le service de Cythère. Avec une prodigalité exceptionnelle, à pleine main, la nature, d'habitude économe, a puisé dans son creuset pour réunir tout le suc, toute la sensualité, la force et la beauté, afin que les femmes aient la joie de voir naître une fois de plus un homme véritable, un mâle, un exemplaire dur et pourtant brûlant, à la fois de bon poids et de bon ressort, de ce cher sexe, fonte massive et forme achevée. Car on se tromperait si l'on se représentait physiquement Casanova le conquérant d'après notre type de beauté à la mode svelte et étroit. Ce bel ou homo n'est pas un éphèbe, pas du tout, mais bien un véritable étalon humain, avec les épaules de l'Hercule Farnèse, avec les muscles d'un lutteur romain, la beauté brune d'un fils de bohémien, l'impétuosité et l'insolence d'un condottiere et la chaleur virile d'un faune velu. Son corps est un métal pétri de fougue et de force débordante. 4 syphilis, 2 empoisonnements, une douzaine de coups d'épée, les années mornes et atroces passées sous les plombs et dans les puants cachots d'Espagne, les brusques transitions de la chaleur sicilienne à la glace moscovite n'ôtent pas un pouce à sa vigueur phallique toujours prête. N'importe où, n'importe quand, il suffit de l'étincelle d'un regard, du contact physique s'exerçant à distance d'un voisinage féminin pour que s'enflamme et que fonctionne cette invincible sexualité. Pendant tout un fécond quart de siècle, il joue au naturel le légendaire Messer Sempre Pronto, le monsieur toujours prêt des farces italiennes. Il enseigne inlassablement aux femmes des mathématiques plus hautes que ne savent le faire les plus intrépides de leurs amoureux, et jusqu'à 40 ans, il ne connaît que par ouï dire le fâcheux fiasco du lit, auquel Stendhal, dans son traité de l'amour, juge à propos de consacrer un chapitre spécial. Un corps qui n'est jamais là lorsque le désir le pousse, un désir qui, à son tour, ne se repose jamais, qui guette nerveusement toute féminité, une passion qui, malgré la prodigalité la plus enragée, ne s'appauvrit jamais, une fureur du jeu qui n'a peur d'aucun enjeu. En vérité, la nature a rarement confié à un maître comme corps un instrument aux cordes si multiples et si bien conçu, une pareille viola d'amore pour en jouer toute une vie. Mais la maîtrise sous tous les rapports exige encore, pour que le talent inné puisse se déployer à fond, un gage particulier, le don complet de soi-même, la concentration absolue. Seul le monogame d'une passion atteint le maximum de cette dernière. Seule la concentration complète dans une seule direction donne un rendement complet. Comme pour le musicien, la musique, comme pour le poète, la forme littéraire, pour l'avare, l'argent, et pour le sportif, les records. C'est la femme, la cour qu'on lui fait pour la conquérir, le désir qu'elle inspire et la possession qu'on en a, qui devient, pour un érotique véritable, le bien non seulement le plus important, mais encore le seul qu'il y ait au monde. À cause de l'éternelle jalousie qu'il y a entre les passions, il ne lui est permis de se livrer qu'à celle-là, à elle seule, et de saisir uniquement en elle et en elle seule le sens et l'infini de l'univers. Casanova, éternel infidèle, reste fidèle à lui-même dans la passion qu'il a de la femme. Offrez-lui l'anneau des doges de Venise, les trésors de Fugère, des lettres de noblesse, une maison et une pension, la gloire du capitaine et du poète. il repoussera d'une main légère ses frivolités, ses bêtises sans valeur, pour l'odeur d'une peau nouvelle, pour le doux aspect et le moment sans pareil d'une femme prête à céder, pour les regards miroitants et déjà troublés par les nuages du plaisir qui émanent d'une femme s'abandonnant à lui et qu'il n'a pas encore eu. Toutes les promesses du monde, honneur, charges et dignités, loisirs, santé et tous les plaisirs, il les chasse comme la fumée d'une pipe, pour une aventure et même pour la simple possibilité d'une aventure. Car ce joueur de l'érotisme n'a pas besoin d'aimer pour désirer. Déjà le pressentiment, l'approche devinée mais non encore tangible d'une aventure, échauffe son imagination en lui donnant l'avant-goût du plaisir et de la passion. Un exemple sur 100. L'épisode du début du deuxième volume quand Casanova se rend en poste à Naples pour une affaire très importante. En chemin dans une hôtellerie, il voit dans une chambre voisine, dans un lit étranger, auprès d'un capitaine hongrois, une belle femme. Non, folie plus grande encore, il ne sait pas encore si elle est belle, car il n'a même pas vu cette femme qui est cachée sous la couverture. Il a seulement entendu un rire, le rire d'une femme, et déjà ses narines frémissent. Il ne sait rien d'elle, il ignore si elle est séduisante, belle ou laide, jeune ou vieille, complaisante ou prude, libre ou déjà attachée à quelqu'un. Et cependant, il jette aussitôt, ainsi que sa valise, tous ses projets sous la table, il fait dételer les chevaux déjà prêts et il reste à Parme, simplement parce que cette chance d'aventure minime et tout à fait imprécise suffit à l'affoler. Lui, le joueur, toujours prêt à tenter le hasard. C'est d'une manière aussi insensée en apparence, mais qui malgré tout est si sage, dans son sens le plus intime et le plus naturel, que Casanova agit en tout temps et en tout lieu. Pour une heure à passer avec une femme inconnue, deux jours, deux nuits, le matin ou le soir, il sera immanquablement prêt à commettre n'importe quelle folie. Quand il désire, aucun effort ne l'arrête. Quand il veut conquérir, il ne redoute aucune résistance. Pour revoir une femme, cette épouse du bourgmestre allemand qui apparemment n'a pas pour lui une importance particulière, et dont il ne sait même pas si elle pourra le rendre heureux, il se présente sans être invité et se sachant indésiré, le front insolent, à Cologne dans une société qui ne le connaît pas, et il est obligé de subir les dents serrées, les remarques de l'amphitryon et les rires des autres. Mais lorsqu'il est en chaleur, les talons ne sentent pas les coups qui s'abattent sur lui. Affamé et gelé, Casanova passera sans se plaindre une nuit entière dans une cave glaciale au milieu des rats et de la vermine, pourvu qu'à l'aube il ait l'espoir que sonne pour lui l'heure du berger malgré toutes les difficultés. Il risque des douzaines de fois des coups d'épée, des coups de pistolet, des offenses, des humiliations, des extorsions, des maladies. Et cela non plus ce qui serait après tout compréhensible pour une Anna Diomène, pour une femme véritablement aimée, pour une femme désirée avec toute l'ardeur de l'âme et toute la concentration des sens, mais pour Madame Tout-le-Monde, pour Madame n'importe qui, pour toute femme se trouvant à sa portée simplement parce qu'elle est femme, c'est-à-dire incarnation de ce sexe différent du sien et pour lui si désirable. Tout entremetteur, tout souteneur, peut piller de la manière la plus commode ce célèbre séducteur. Tout époux facile ou tout frère complaisant peut l'embarquer dans les plus sales affaires dès que ses sens sont excités. Mais quand ne le serait-il pas, quand la soif érotique de Casanova serait-elle jamais complètement apaisée? Semper novarum rerum cupidus, tout le temps avide d'une nouvelle proie, ses désirs ne cessent de vibrer dans l'attente de l'inconnu. Une ville sans aventure pour lui n'est pas une ville, et le monde sans femme n'est pas le monde. Comme d'oxygène, de mouvement et de sommeil, ce corps mâle a toujours besoin dans son lit d'une chair douce et voluptueuse, et toujours son esprit agité réclame l'attention papillonnante de l'aventure. Sans femme, il ne peut se sentir à son aise, ni un mois, ni une semaine, ni même un jour, nulle part et jamais. La continence, dans le vocabulaire de Casanova, signifie hébétude et ennui. Il n'est pas étonnant qu'avec un appétit aussi robuste et une consommation aussi fréquente, la qualité de ses conquêtes féminines ne soit pas toujours d'une haute valeur. Avec un pareil estomac d'autruche en matière de sensualité, l'on ne devient pas gourmet et raffiné, mais simplement glouton et gourmand. C'est pourquoi avoir été aimé par Casanova n'est pas du tout une recommandation spéciale, car il n'est pas nécessaire d'être ni Hélène, ni vierge, ni chaste, ni spirituelle, ni bien élevée, ni particulièrement séduisante, pour que ce noble seigneur daigne vous remarquer. Il suffit le plus souvent à cet homme facile à séduire qu'on soit femme, femelle, vagin, incarnation polaire de l'autre sexe formé par la nature pour contenter sa sensualité. La beauté, l'intelligence, la finesse, ce sont certes des attributs agréables, mais malgré tout, quelque chose de ridicule, de secondaire, à côté du fait décisif que constitue la simple féminité, car ce n'est que cela, la féminité, toujours nouvelle et toujours différente, que Casanova désire et cherche sous chacune de ses formes et déformations. Aussi, il faut radicalement renoncer aux représentations romantiques ou esthétiques qu'on pourrait avoir de ce vaste parc aux cerfs. Comme toujours chez l'érotique professionnelle, c'est-à-dire sans choix, la collection de Casanova est largement bariolée, d'une valeur tout à fait inégale et, Dieu le sait, ce n'est pas du tout un musée de beauté. À la vérité, il y a quelques figures, délicats et suaves visages de jeunes filles à demi formées, qui seraient dignes du pinceau de ses compatriotes, le guide et Raphaël, et quelques autres, de celui de Rubens, ou qui mériteraient d'être tracées par Boucher avec un rouge délicat sur des éventails de soie, mais, à côté de cela, quelle silhouette n'y a-t-il pas ? Prostituée des ruelles anglaises, dont seul le mordant crayon de Hogarth pourrait rendre l'horrible grimace. Vieille sorcière de la débauche qui aurait tenté la verve de Goya. Visage gangréné de putain dans le style de Toulouse-Lautrec. Compagnardes et servantes qu'aurait aimé l'âpre Bruegel. Pêle-mêle insensé de beauté et d'ordure, d'esprit et de vulgarité. Véritable foire du hasard sans frein et sans choix. Car ce panérotique a, dans la volupté, des nerfs plutôt rudes et le rayon de son désir s'étend d'une manière inquiétante très loin dans le domaine de la singularité et de la perversion. Cette sorte d'activité amoureuse permanente ne connaît pas de préférence. Elle empoigne et saisit ce qui passe au coin de la rue, elle pêche dans tous les fleuves et rivières, qu'ils soient limpides ou troubles, défendus ou permis. Elle ne connaît cette érotique sans bornes et sans scrupules, aucune barrière morale ou esthétique, imposée par la décence ou par l'âge, elle ne connaît ni haut ni bas, ni le trop tôt, ni le trop tard. Les aventures de Casanova commencent avec des jeunes filles, d'un âge qui, à notre époque de réglementation, l'aurait aussitôt mise en conflit avec les juges, et elles vont jusqu'à l'âge où le corps n'est plus qu'un affreux squelette, jusqu'à cette ruine de 70 ans qu'était la duchesse d'Urfé, la plus hideuse heure du berger que probablement jamais homme ait sans honte raconté par écrit à la postérité. Cette nuit de Valpurgis, qui n'a rien de classique, tourbillonne à travers tous les pays et toutes les classes de la société. Les figures les plus délicates et les plus pures que brûle le frisson de la pudeur première, des femmes distinguées, revêtues de dentelles et dans l'éclat de leurs pierreries, tendent précipitamment la main pour entrer dans la ronde, au rebut des maisons publiques, aux horreurs des bouges à matelots. La cynique disgraciée, la boiteuse perfide, des fillettes vicieuses, des vieilles en chaleur, tout cela se marche sur les pieds dans cette danse du sabbat. La tante cède à la nièce le lit encore chaud, de même que la mère à la fille. Des entremetteurs introduisent leurs enfants dans la maison de cet homme dont les désirs sont toujours éveillés et des époux complaisants leurs propres femmes. Des filles à soldats partagent avec de nobles dames le même plaisir rapide de la même nuit. Oui, il faut perdre enfin l'habitude involontaire d'illustrer les prouesses amoureuses de Casanova à la manière des estampes galantes du XVIIIe siècle et avec des scènes toujours gracieuses et d'une volupté appétissante. Il faut avoir le courage de voir ici l'érotique sans choix, avec ses contrastes les plus criants, dans son réalisme concret, comme constituant un pandémonium de la sensualité masculine. Une libido aussi inépuisable dans son manque de choix que celle de Casanova ne connaît pas d'obstacle, et surtout ne laisse rien passer. Casanova est attiré aussi bien par l'extraordinaire que par le quotidien. Il n'y a pas d'anomalie qui ne l'excite, il n'y a pas d'absurdité qui le dégrise. Lit pouilleux, linge souillé, odeur douteuse, camaraderie avec des racoleurs, présence de voyeurs, cachés ou appelés exprès, viles escroqueries et maladies usuelles, tout cela n'est que vêtis pour ce taureau divin qui, nouveau Jupiter, veut embrasser l'Europe, tout l'univers féminin dans chacune de ses formes et de ses attitudes, dans chaque figure et dans chaque squelette. Démesurément avide de nouveautés fantastiques autant que de choses naturelles, dans son désir qui a tout de pan et qui déjà est presque maniaque. Mais, fait typique pour la virilité de cette érotique, l'onde de son sang a beau courir tout le temps et avec impétuosité, jamais elle ne sort du lit tracé par la nature. L'instinct de Casanova s'arrête brusquement à la frontière sexuelle. Il est saisi de dégoût au contact d'un castrat et il chasse à coups de canne les gitons. Toutes ces dépravations et ces perversions ne s'appliquent toujours par une fidélité remarquable qu'au monde féminin qui est sa sphère de perfection et d'élection innée. Mais ici, à vrai dire, sa furie ne connaît pas de limites, d'entraves, ni de freins. Sans choix, sans calcul et sans répit, ce désir, lui, vers toute femme, avec l'ivresse de la volupté, sans cesse renouvelée par chaque femme nouvelle qui caractérisait les faunes. Mais, précisément, cette ivresse et ce naturel du désir donnent à Casanova une puissance inouïe sur les femmes et le rendent presque irrésistible. Avec l'instinct fougueux du sang, elles sentent en lui l'animal masculin, l'être brûlant et flambant qui bondit vers elles, et elles se laissent posséder par lui parce qu'il est entièrement possédé par elles. Elles se donnent à lui parce qu'il s'est donné entièrement à elles, non pas à une unité féminine, mais à la pluralité, à la femme qui est en elle, à ce qui est pour lui un contraste et le pôle opposé. Enfin, sentent-elles, avec l'intuition de leur sexe, en voici un pour qui rien n'est plus important que nous, un qui n'est pas comme les autres, qui ne nous fait pas la cour simplement de temps en temps et d'une manière accessoire, qui n'est pas accablé par les affaires et les devoirs de sa profession, ni maussade, pressé et coléreux à la façon d'un homme marié. Enfin, en voici un qui se précipite au-devant de nous avec toute la fougue de son être comme un torrent, sans se ménager, en prodigue, qui n'hésite ni ne choisit. Et de fait, il sait se donner sans réserve. Il sera toujours prêt à sacrifier sans scrupule la dernière goutte de volupté de son corps et le dernier ducat de sa poche pour n'importe quelle femme, rien que parce qu'elle est femme, et qu'en ce moment, elle apaise la soif qu'il a de la féminité. Car voir des femmes heureuses, surprises dans leur âme, ravies, rieuses et conquises, et pour Casanova, la jouissance des jouissances. Tant qu'il a de l'argent, il comble chaque femme de cadeaux choisis avec raffinement. Il flatte sa vanité par le luxe et la prodigalité. Il aime la vêtir magnifiquement, à l'envelopper de dentelle avant de la déshabiller dans toute sa nudité. Il aime à la surprendre par des choses précieuses qu'elle n'a jamais vues, par le flot impétueux de ses dépenses et les flammes de sa passion. Véritablement un dieu, un Jupiter dispensateur qui fait ruisseler sur la femme aimée aussi bien une pluie d'or que l'ardeur de ses veines. Et si, en cela aussi semblable à Jupiter, il disparaît ensuite bientôt dans les nuages, j'ai aimé follement les femmes, mais je leur ai toujours préféré la liberté. Son auréole n'en est pas diminuée, mais au contraire accrue, car grâce au caractère de phénomène élémentaire qu'ont son irruption et sa disparition, les femmes gardent le souvenir de cette ivresse et de cet abandon incomparable, du ravissement de cette séduction, de cette aventure splendide qui ne saurait se répéter et qui, comme avec d'autres, n'est pas suivie du désenchantement qu'apporte l'habitude et la banalité de la coucherie. Chacune de ces femmes sent qu'un homme comme celui-là est impossible comme époux, comme Céladon fidèle. Elle se souviendra de lui dans son sang, uniquement comme amoureux, comme le dieu d'une nuit. Bien qu'il les abandonne toutes, aucune d'elles ne le voudrait autre qu'il a été. C'est pourquoi Casanova n'a besoin que d'être ce qu'il est, c'est-à-dire sincère dans l'infidélité de sa passion, et il fera la conquête de chacune. Un être comme le sien n'a pas besoin de recourir à la simulation ni d'élever son diapason. Il n'a pas à inventer des artifices lyriques ou frauduleux pour séduire. Casanova n'a qu'à laisser agir sa passion et elle travaille pour lui. C'est en vain, par conséquent, que de timides jeunes gens, pour apprendre du maître le secret de ses succès, feuilletteront les 16 volumes de cet Ars Amandi. La séduction s'apprend aussi peu dans les livres que la poésie dans l'étude des traités de versification. On ne peut rien emprunter à ce maître, rien apprendre de lui, car il n'y a pas de trucs propres à Casanova, il n'y a pas de technique casanovienne de la conquête et de la séduction. Son secret est dans la sincérité de son désir, dans le déploiement élémentaire d'une nature passionnée. Nous venons d'écrire le mot « sincérité », chose qui paraît surprenante lorsqu'il s'agit de Casanova. Mais il n'y a pas à protester. Au jeu d'amour, il faut reconnaître une sorte de loyauté à ce tricheur pris sur le fait et à ce fiefé filou. Les rapports de Casanova avec les femmes sont réellement loyaux parce qu'ils sont simplement d'ordre sexuel et sensuel. C'est une chose triste à dire, mais en amour, l'insincérité ne commence toujours qu'avec l'intervention de sentiments élevés. Le brave garçon, tout d'une pièce, qu'est le corps, ne trompe pas. Il n'exagère jamais ses tensions et ses désirs les plus extrêmes au-delà de ce que peut atteindre la nature. Ce n'est que lorsque l'esprit et le sentiment s'en mêlent, eux qui, conformément à leur nature ailée, s'élancent dans l'infini, que toute passion a tendance à exagérer, c'est-à-dire à mentir, et qu'elle introduit dans nos relations terrestres d'illusoires éternités. Il est donc facile à Casanova, qui ne dépasse jamais la limite des choses du corps, de tenir ce qu'il promet. Grâce au magnifique magasin de sa sensualité, il donne plaisir, corps pour corps, et ne contracte jamais des dettes d'âme. C'est pourquoi les femmes qu'il a ne se sentent pas post festum trompées dans des espérances platoniques. C'est parce que cet homme en apparence frivole n'exige d'elles d'autres ravissements que les spasmes du sexe. C'est parce qu'il ne les entraîne pas par des paroles prometteuses dans l'infini du sentiment qu'il leur épargnera toujours le désenchantement. Libre à chacun de qualifier ce genre d'érotisme d'amour bas, uniquement sexuel, attaché à la peau, sans âme et animal, mais qu'on n'attaque pas la sincérité de Casanova. Car réellement, ce volage dissolu, avec sa façon franche et directe de les désirer, n'agit-il pas d'une manière plus loyale et plus bienfaisante à l'égard des femmes que les passionnés romantiques, les grands amoureux, que, pour ne citer qu'un exemple, Faust, le prétendant à la sensualité suprasensuelle, qui, dans l'exaltation de son âme, adjure le soleil, la lune et les étoiles, qui fait intervenir Dieu et l'univers dans le sentiment qu'il éprouve pour Marguerite, mais qui, malgré tout, ainsi que Méphistophélès l'avait prévu depuis longtemps, n'en termine pas moins d'une façon tout à fait casanovienne en faisant perdre son joyau de la manière la plus terrestre à la pauvre enfant de 14 ans. Tandis que derrière Goethe et Byron, il y a une multitude de femmes qui ne sont plus que des existences brisées, dévoyées et déchirées, précisément parce que des natures trop élevées et d'un caractère cosmique élargissent dans l'amour malgré elles l'âme d'une femme à tel point que celle-ci, ne recevant plus sa part de ce souffle de feu, ne retrouve plus sa forme terrestre. L'inflammabilité de Casanova fait bien peu de ravages parmi les âmes. Il ne provoque pas de catastrophe, il a rendu beaucoup de femmes heureuses et n'en a fait devenir aucune hystérique. Toutes sortent intactes d'une aventure purement sensuelle pour revenir à la quotidienneté, c'est-à-dire à leur mari ou à d'autres amants. Mais aucune ne se suicide ou s'abandonne au désespoir. Leur équilibre intérieur n'est pas troublé. Il est même à peine effleuré, parce que la passion de Casanova, qui va droit devant elle et qui est essentiellement saine dans sa netteté, ne pénètre pas jusqu'à la couche profonde où leur destin est intéressé. Il ne fait que glisser sur elle toute, comme un vent du tropique, pour épanouir en elle une sensualité plus ardente. Il les enflamme, mais sans les consumer. Il conquiert, sans détruire. Il séduit, mais ne démoralise pas. Et justement parce que son érotique ne touche que le réseau plus résistant de l'épiderme, sans atteindre celui plus fragile de l'âme véritable, ses conquêtes ne sont pas suivies de bouleversements. C'est pourquoi Casanova, en tant qu'amoureux, est dépourvu de tout caractère démoniaque. Il ne devient jamais le héros tragique d'une destinée, ni même une nature à problème. Il reste uniquement le plus génial épisodiste du jeu d'amour que connaisse la scène de l'univers. Mais cette absence d'âme conduit inévitablement à se demander s'il est possible d'appeler encore amour cette libido toute corporelle que chaque jupon suffit à enflammer. Certes non, si l'on compare Casanova, l'homo eroticus, au erotissimus, à Werther ou à Saint-Preux, ses immortels amants. Ce sentiment d'exaltation, qui ressemble presque à de la piété, et qui, à l'aspect de la figure aimée, participe en même temps de la nature universelle et de la divinité, cette élévation au-dessus de soi et cet élargissement de l'âme produit par Eros restent inaccessibles à Casanova du premier jour jusqu'au dernier. Pas une seule lettre méritant d'être rappelée, pas un vers de sa main, ne témoigne d'un véritable ébranlement amoureux qui dépasse les heures du lit. Il est même douteux qu'on puisse lui reconnaître la faculté d'éprouver une véritable passion. Car la passion, l'amour-passion, comme l'appelle Stendhal, contredit, parce qu'elle a chaque fois d'unique, la quotidienneté de cette libido. Elle ne surgit que rarement et alors toujours à la suite d'une épargne de forces sentimentales, depuis longtemps accumulées et amassées, forces qui, enfin délivrées, s'élancent comme la foudre au-devant de l'objet aimé. Casanova, au contraire, gaspille ses ardeurs de façon trop continue. Il se détend trop souvent pour être capable d'une tension suprême, analogue à la fulguration de l'éclair. Sa passion, qui n'est qu'érotique, ne connaît pas l'extase de la passion suprême, qui n'a lieu qu'une fois. C'est pourquoi il ne faut pas du tout s'inquiéter lorsqu'il affecte d'être affreusement désespéré à la suite du départ d'Henriette ou de la belle portugaise. Il n'aura pas recours au pistolet. Et effectivement, deux jours après, nous le trouvons déjà auprès d'une autre ou bien dans une maison close. Lorsque la nonne, Cécé, ne peut plus venir de Murano au casino et qu'apparaît à sa place la religieuse, M.M., il se console avec une rapidité surprenante. Pour lui, l'une remplace l'autre et il n'est pas difficile de se rendre compte que cet érotique fiefé n'a jamais été complètement épris d'une des nombreuses femmes qu'il a eues, mais bien de leur éternelle pluralité, du changement continuel et de la multiplicité de l'aventure. Même un jour, il laisse échapper cette parole. « Déjà alors, je sentais obscurément que l'amour n'est qu'une curiosité plus ou moins vive. » Et pour le mieux saisir, il n'y a qu'à prendre cette définition et à bien analyser le mot qui en allemand signifie « curiosité ». Nous avons alors « Neugierde », c'est-à-dire un désir toujours nouveau d'une chose toujours nouvelle, d'expériences sans cesse différentes avec des femmes sans cesse différentes. Ce n'est jamais l'individualité qui l'excite, mais la variante inlassablement nouvelle sur l'échiquier inépuisable d'Eros. Sa façon de prendre une femme et de la laisser est aussi naturelle et aisée que l'inspiration et l'expiration. Et cette jouissance purement fonctionnelle explique pourquoi Casanova, en tant qu'artiste, ne nous donne véritablement la plastique psychologique d'aucune de ces 1000 femmes. À parler franchement, toutes ces descriptions laisseraient soupçonner qu'il n'a jamais bien regardé le visage de ses amantes, tout au plus incerto punto, d'après une certaine perspective tout à fait médiocre. Ce qui l'enthousiasme, l'enflamme, ce sont toujours, à la manière des vrais méridionaux, les mêmes choses, les éléments sexuels de la femme, d'une grossière sensualité, perceptibles à un paysan, tangibles et qui sautent aux yeux toujours et toujours jusqu'à satiété, ce sein d'albâtre, ces hémisphères divins, cette taille de Junon, ces appâts les plus secrets, qui sans cesse sont mis à nu par un hasard toujours différent. Donc, exactement ce qui, dans une fille de service, chatouille la pupille d'un collégien lascif. Ainsi, des innombrables Henriette, Irène, Babette, Mariucha, Hermeline, Marcoline, Ignazia, Lucie, Esther, Sarah et Clara, il faudrait, à vrai dire, citer tout le calendrier. Il ne reste guère rien d'autre qu'une gelée, couleur de chair, de corps féminin, chauds et voluptueux, une confuse bacchanale de chiffres et de nombres, de prouesses et d'enthousiasme. Ce qui est tout à fait dans la manière de concevoir les choses d'un ivrogne qui, au matin, se réveillant la tête lourde, ne sait plus ni ce qu'il a bu, ni où, ni avec qui il a passé la nuit à boire. Aucun contour corporel, et moins encore spirituel, de ces 80 x 60 femmes ne projette dans sa description une ombre plastique ou psychophysique. Il n'a joui d'elles que dans la peau, il n'a senti que leur épiderme, ne les a connues que dans leur chair. et ainsi l'étalon précis de l'art nous révèle avec plus de netteté que la vie elle-même l'énorme différence qu'il y a entre le simple érotique et l'amoureux véritable, entre celui qui obtient tout sans rien garder et celui qui ne conquiert que peu de choses, mais qui, par la force de son âme, exalte ce moment éphémère jusqu'à le rendre durable. Une seule expérience de Stendhal, ce héros de l'amour qui, à s'en tenir au fait, serait assez médiocre, dégage plus de substance spirituelle par sublimation, qui cite 3000 nuits et les 16 volumes de Casanova nous font moins bien comprendre que 4 strophes de Goethe jusqu'à quelle profondeur du sentiment et quelles zones extatiques de l'esprit Eros peut conduire. Considérées au sens le plus élevé, les mémoires de Casanova sont donc plutôt un compte-rendu statistique qu'un roman, plutôt une relation de campagne qu'un poème, plutôt un codex eroticus, un Kamasutra occidental, une odyssée de voyage charnel, une Iliade de l'éternel Ruth masculin vers l'éternelle Hélène. Leur valeur repose sur la quantité, non sur la qualité. Ils deviennent précieux par les variantes et non par le cas isolé, uniquement par la forme multiple, mais non par la signification spirituelle. Mais justement à cause de la multitude de ces expériences vécues et par l'admiration qu'il a pour la prouesse physique, notre monde, qui presque toujours se borne à enregistrer le record et qui ne mesure que rarement la force spirituelle, a fait de Giacomo Casanova le symbole du triomphateur phallique, et il lui a donné la plus précieuse couronne de sa gloire en faisant passer son nom en proverbe. Un Casanova, c'est aujourd'hui, dans toutes les langues européennes, un cavalier irrésistible, un glouton de femme, un maître séducteur. Il représente dans le mythe masculin exactement la même chose qu'Hélène, que Phryné et Ninon dans le mythe féminin. Toujours l'humanité, pour créer à l'aide de ces millions de larves d'un jour le type immortel, est obligée d'imposer à un cas général le raccourci d'une figure individuelle. Et ainsi ce fils d'acteur vénitien obtient l'honneur inattendu d'être considéré dans tous les temps comme l'incarnation du héros de l'amour. Il est vrai qu'il doit partager ce piédestal enviable avec un compagnon qui même est légendaire. À côté de lui se dresse, plus noble d'extraction, plus sombre dans sa nature et plus démoniaque dans ses manières, son rival espagnol, Don Juan. Souvent le contraste latent existant entre ces deux maîtres de la séduction a été esquissé, d'abord et à ma connaissance, de la façon la plus heureuse, par Oscar A.H. Schmitz. Mais de même que l'antithèse intellectuelle Léonard de Vinci, Michel-Ange, Tolstoï, Dostoïevski, Platon, Aristote n'est jamais épuisée, parce que chaque génération la renouvelle psychologiquement, de même reste fécond le parallèle des deux formes fondamentales de l'érotique. Car bien que tous deux s'avancent dans la même direction, tous deux, éperviers en chasse de femmes, se précipitant toujours et sans cesse sur leurs troupes effarouchées ou délicieusement effrayées, ils appartiennent à des races tout à fait différentes par leur manière d'être et d'agir. Don Juan, à l'opposé du léger et bon vivant Casanova, qui n'a ni principe ni frein, est rigidement muré dans une caste hidalgo, gentilhomme, espagnol, et même jusque dans la révolte, catholique encore de sentiment. Comme espagnol pour Sangre, toute sa pensée sentimentale tourne autour de la notion de l'honneur. Comme catholique du Moyen-Âge, il partage sans le savoir l'opinion de l'Église pour qui toute chair est péché. L'amour, hors du mariage, vu sous cette perspective transcendante de la chrétienté, signifie, ce qui est doublement excitant, quelque chose de diabolique, de contraire à Dieu et de défendu. Une hérésie de la chair, idée qui ferait rire cordialement le libre penseur Casanova, dans les veines de qui roule encore pétillant le sang de la Renaissance. Et la femelle, la femme, est l'instrument de ce péché. Ses sens et son être ne servent qu'au mal. Sa nature, son existence même, est déjà séduction et péril. C'est pourquoi la vertu la plus parfaite chez la femme n'est qu'apparence, illusion et masque du serpent. Don Juan ne croit à la pureté ni à la chasteté d'aucune de ses filles du diable. Il sait que chacune d'elles est nue sous ses vêtements, accessible à la tentation. Et démasquer parmi les traits, exemple, cette fragilité de la femme, prouver à lui-même, au monde et à Dieu, que toutes ces doñas qui ont l'air d'être inapprochables ses épouses fidèles en apparence, ses demi-enfants exaltés, ses fiancées du Christ promises à Dieu, toutes, sans exception, se laissent faire, et que ses anges à l'église sont des singes au lit. C'est cela et cela seul qui excite ce furieux coureur de femmes à renouveler inlassablement ses tentatives de séduction passionnées. Rien de plus absurde, par conséquent, que de faire de Don Juan cet ennemi fieffé du sexe féminin, un amoroso, un ami des femmes, car jamais un amour et une inclination sincères ne le portent vers l'une d'elles, mais c'est une haine primitive de mâle qui le pousse démoniaquement vers la femme. S'il les prend, ce n'est jamais afin de les avoir pour lui, mais toujours dans l'intention de leur ravir quelque chose, de leur arracher ce qu'elles ont de plus précieux, l'honneur. Son plaisir ne jaillit pas, comme chez Casanova, des cordons séminaux. Il provient du cerveau, car dans chacune des femmes, ce sadique de l'âme veut toujours humilier, rendre honteuse et blesser la féminité. Sa jouissance est tout à fait indirecte, comme un avant-goût fantastique du désespoir que ressentira plus tard chaque femme profanée par lui, qu'il déshonore, et que par là il a démasqué dans sa charnalité grossière et aussi basse que chez une servante. C'est pourquoi le stimulant de la chasse, contrairement à Casanova, pour qui la meilleure est celle qui se déshabille le plus vite, s'accroît chez Don Juan avec la difficulté. Plus une femme est inaccessible, plus est grande l'improbabilité de la conquête, plus décisif et convaincant est pour sa thèse le triomphe définitif. Là où il n'y a pas de résistance, Don Juan n'éprouve aucune impulsion. Il est impossible de se le représenter comme Casanova chez une prostituée ou dans une maison close, lui qui n'est excité que par l'acte diabolique de l'humiliation, par le péché qu'il va faire commettre, par la violation unique, non réitérée, de la fidélité conjugale, par la défloration d'une virginité ou par le déshonneur d'une religieuse. Lorsqu'il a possédé une femme, l'expérience est achevée. La femme séduite n'est qu'un chiffre et un numéro dans le registre à la tenue duquel il a, effectivement, préposé une sorte de comptable particulier, son Leporello. Jamais il ne songe à regarder tendrement une dernière fois son amante de la nuit, d'une seule nuit. Car de même que le chasseur ne s'éternise pas auprès du gibier tué, de même ce séducteur professionnel ne reste pas auprès de sa victime, l'expérience terminée. Il faut qu'il aille plus loin toujours en chasse, vers des proies aussi nombreuses que possible, car son instinct est essentiel, et cela donne à sa figure un caractère démoniaque, lui assigne une mission et une passion qui ne finiront jamais, faire la preuve universelle sur toutes les femmes, et ainsi, d'une manière absolue, que le sexe féminin est voué à la chute. L'érotisme de Don Juan ne cherche ni ne trouve aucun repos ou jouissance. Par une sorte de vengeance liée à son sang, il est, en tant qu'homme, éternellement en guerre contre la femme. Et le diable lui a donné pour cela les armes les plus parfaites. Richesse, jeunesse, noblesse, grâce physique, et, ce qui est plus important encore, une impassibilité glaciale et absolue. Effectivement, dès qu'elles ont été vaincues par sa froide technique, les femmes voient dans Don Juan le diable lui-même. Elles détestent, avec toute l'ardeur de leur amour de la veille, l'ennemi héréditaire et trompeur qui, dès le lendemain, verse sur leur passion la douche glacée de son rire ironique, comme Mozart nous en a donné l'immortelle représentation. Elles ont honte de leur faiblesse. Elles sont folles, furieuses et enragées dans leur colère impuissante contre le coquin qui les a trompées, induites en erreur et dépouillées, et elles haïssent en lui tout le sexe masculin. Toutes, Anna, Elvire, les 1003 femmes qui ont cédé à ces sollicitations calculées restent pour toujours moralement empoisonnées dans leur féminité. Au contraire, les femmes qui se sont données à Casanova le remercient comme un dieu, se rappelant avec plaisir ses brûlantes caresses, car non seulement il ne leur a rien pris de leurs sentiments, il ne les a pas blessées dans leur féminité, mais encore il les a gratifiées d'une nouvelle certitude dans leur vie. Précisément dans ce que le satanique Don Juan les oblige à mépriser comme l'humiliation suprême, comme un rut de bête, comme un moment diabolique, comme une faiblesse féminine, c'est-à-dire l'ardente pénétration des corps, cette façon de s'abandonner à la flamme. Casanova, le tendre magister artium eroticarum, leur apprend à y reconnaître le sens véritable, le devoir le plus doux de leur nature de femme. C'est se refuser et non se donner, ainsi leur parle avec persuasion ce tendre prêtre, qui est en même temps un épicurien au corps viril, qui est un péché contre le Saint-Esprit de la chair, contre le sens de la nature voulue par Dieu, et, par la gratitude qu'il a pour elle, ravie de ses ravissements, elle se sent déjà disculpée de toute faute et libérée de toutes entraves. D'une main légère et amoureuse, il dépouille ses demi-femmes. Elles ne deviennent tout à fait femmes que lorsqu'elles se sont données, en même temps que de leurs vêtements, de toute timidité et de toute crainte. Il les rend heureuses, en se rendant lui-même heureux. Il excuse les jouissances qu'elles éprouvent par sa propre extase reconnaissante, car Casanova ne jouit complètement d'une femme que lorsqu'il partage la jouissance avec elle, et qu'il la sent dans les nerfs et les veines de sa partenaire. Les 4/5 de la jouissance ont toujours consisté pour moi à rendre heureuses les femmes. Il a besoin pour jouir que la jouissance soit mutuelle, de même qu'un autre a besoin pour aimer d'être aimé. Et ses prouesses herculéennes tendent moins à épuiser et à ravir son propre corps que celui de la femme qui l'étreint. Pour un pareil altruisme de l'érotisme, ce serait donc un contresens complet que de vouloir recourir à la violence ou à la ruse à cause d'une jouissance simplement physique. Et il n'est jamais attiré, comme son rival espagnol, par le désir grossier et sportif de posséder, mais uniquement par celui de donner. C'est pourquoi, pour être juste, on devrait l'appeler non pas séducteur, mais initiateur à un jeu nouveau et captivant dans lequel il voudrait, s'il était possible, entraîner le monde entier alourdi par la torpeur et aveli par les entraves, les usages et la morale, ne cherchant dans l'amour comme partout que la légèreté et l'ivresse du changement. Seule l'absence de scrupules moraux libère de toute la lourdeur terrestre, et en effet, toute femme qui s'est donnée à lui devient davantage femme, parce qu'elle devient plus savante, plus voluptueuse et plus libre. Elle découvre, dans son corps, qui jusqu'alors lui était indifférent, des sources surprenantes de plaisir. Derrière les voiles antérieurs de la pudeur, elle aperçoit pour la première fois la beauté de sa nudité. Elle a appris la richesse de sa féminité. Un maître serein de la libéralité a enseigné à Casanova à se prodiguer, à donner du plaisir pour du plaisir et à ne pas chercher d'autre explication que celle que lui donne l'émoi de ses propres sens. Ainsi, à vrai dire, il n'a pas fait la conquête de ces femmes pour lui-même, mais plutôt pour leur révéler une forme de jouissance joyeusement acceptée, et c'est pour cela qu'aussitôt elles cherchent à recruter de nouvelles adeptes à ce culte fait pour le bonheur. La sœur conduit sa cadette à l'autel de ce charmant sacrifice, la mère sa fille à ce tendre professeur. Chaque amante presse l'autre de se mêler au rite et à la ronde de ce dieu dispensateur. Exactement avec le même instinct infaillible de la fraternité féminine par lequel chaque femme séduite par Don Juan met en garde contre l'ennemi de son sexe, toujours en vain. Celle à qui il a fait maintenant la cour, les amantes de Casanova, ignorant la jalousie, se le recommandent l'une à l'autre comme le véritable divinisateur de leur sexe. Et de même qu'il aime par-delà chaque figure individuelle la féminité universelle, de même par-delà sa personne, elles aiment en lui le symbole de l'homme et du maître de la passion. Casanova incarne donc la victoire, non pas d'un magicien, d'un enchanteur mystique de l'amour, mais bien de la nature elle-même dans sa bonne et saine puissance. La virilité, voilà tout son secret. Naturel dans ses désirs, sincère dans ses sens, il apporte dans l'amour un parfait common sense, le juste et exact équilibre vital. Il n'élève pas les femmes jusqu'au ciel de la sainteté, il ne voit pas en elles des démons de sensualité, mais il les désire et les aime uniquement d'une manière terrestre, comme des compagnes de jeu dans le plus agréable de tous les jeux, comme la forme complémentaire voulue et donnée par Dieu de la force et du plaisir masculin. Bien que plus emballé et plus riche de sang que tous les lyriques, il n'exagère jamais l'idée de l'amour pour en faire le sens du monde, à cause duquel les étoiles font le tour de notre minuscule globe terrestre, les saisons changent et disparaissent, une humanité respire et meurt. Il ne fait pas de l'amour l'amen de l'univers, comme l'appelle le pieux Novalis, mais plein de santé et de franchise, avec la liberté du regard antique, il voit dans Eros uniquement la possibilité à la fois la plus délicate et la plus extrême de la jouissance terrestre. Ainsi, Casanova fait sortir l'amour du ciel et des hauteurs où les lyriques l'ont placé pour le ramener au milieu de l'humanité où chacun pourra le trouver dans chaque femme pourvu qu'il ait le courage et la volonté de la joie. Et à l'heure où Rousseau invente pour les Français la sentimentalité dans l'amour et Werther la mélancolie de la passion pour les Allemands, la vie enivrée de Casanova glorifie la sérénité païenne de l'amour comme le meilleur moyen de travailler à l'œuvre toujours nécessaire de l'allègement de l'univers.